VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bienvenue à l'édition du mardi 22 septembre 2015. Plein feu sur l'actualité au Burkina Faso. Les chefs d'État de la CDAO, toujours en conclave dans la capitale nigériane, doivent se prononcer sur l'accord de sortie de crise. À Ouagadougou, les forces militaires, RSP et armées loyalistes disent vouloir éviter un bain de sang.
Les éléments du groupement de sécurité présidentielle sont confinés avec leur chef, le général Gilbert, au niveau du palais présidentiel.
Mais dans les rues de la capitale, les Burkinabés ne cachent pas leurs sentiments vis-à-vis du putsch et de la médiation ouest-africaine.
Le peuple burkinabé n'a pas été associé. Les autorités que nous reconnaissons n'ont pas été associées.
Ailleurs dans le monde, nouvelle réunion ministérielle à Bruxelles sur la crise migratoire. Les dirigeants de l'UE se rencontrent demain. Washington se prépare pour une visite historique du premier pape latino-américain de l'histoire. François arrive ce soir dans la capitale américaine à son retour de Cuba.
Alors que la situation reste toujours tendue au Burkina Faso, les présidents du Togo, du Bénin et du Nigeria ainsi que du Sénégal sont attendus ce soir à Ouagadougou, juste après le sommet d'Abuja. C'est du moins ce qu'un porte-parole du régiment de sécurité présidentielle a confié à un correspondant de VOA Afrique.
Tout le monde a les yeux tournés vers Abuja où se déroule le sommet de la CDAO consacré à la crise burkinabé. Les chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest ont passé la journée en conclave. Le point avec Nicolas Pineau.
Oui, l'organisation sous-régionale est sous pression après le projet d'accord dévoilé ce week-end à Ouagadougou par Macky Sall et Yayi Boni. Le chef de l'État sénégalais, président en exercice de la CDAO, a été très critiqué pour avoir proposé l'amnistie pour les putschistes. Je vous rappelle que le projet d'accord de sortie de crise prévoit notamment la restauration des autorités de transition au Burkina Faso, mais aussi, et c'est là le problème, l'amnistie des putschistes et la réintégration des partisans du président déchu Blaise Compaoré lors des prochaines élections législatives et présidentielles. Conséquence, ce projet d'accord a donc suscité la colère de la société civile et de l'opposition burkinabé. En ouverture du sommet à Abuja ce mardi, Macky Sall a appelé l'ensemble des intervenants à prendre leurs responsabilités. « J'alerte solennellement notre sommet sur la gravité de la situation au Burkina Faso. Il y a urgence à agir pendant qu'il est encore temps pour éviter l'impasse et le chaos », a-t-il souligné. Le président sénégalais a lancé un appel à toute la classe politique, à toutes les forces vives du Burkina Faso et au peuple burkinabé tout entier pour attendre les décisions qui seront issues de ce sommet, alors que tous ceux qui attisent le feu et poussent au chaos arrêtent et que chacun fasse son examen de conscience devant l'histoire, a-t-il souligné. Le général Gilbert Diendéré, réfugié au palais de Kossiam, avait annoncé qu'il se rangerait derrière les décisions qui seront prises par la CDAO. Il faut donc attendre encore pour voir s'il tiendra parole.
Et que pensent les citoyens burkinabés du sommet de la CDAO?
Écoutez quelques impressions au micro de Zoumana Wonogo.
Est-ce qu'on peut raser la tête de quelqu'un derrière lui? Le peuple burkinabé n'a pas été associé. Les autorités que nous reconnaissons n'ont pas été associées. Et même le président n'a pas été associé. Et alors, on entend des déclarations à gauche, à droite, vraiment, hein, ça nous fait honte. Alors, on ne comprend pas les réactions de la CDAO. Ou bien c'est un syndicat des chefs d'État, ou bien des gens qui ont des comptes à régler avec le Burkina Faso. La solution sera trouvée bientôt. Mais vous allez voir que les protagonistes, là même, ils vont se lasser, ils vont laisser... C'est eux-mêmes qui vont se trucider dedans. Ils déclarent qu'il y a eu quoi dedans et qu'il y a un mort, non. C'est eux qui vont fomenter leur coup dedans et puis ils vont se corriger dedans. Nous avons espoir que ça va aller.
Nous attendons seulement une solution qui sera trouvée. Que ce soit de la CDAO ou bien que ce soit parmi leurs échanges, nous attendons seulement une bonne solution, c'est tout. Dans tous les cas, qu'il y ait confrontation, il n'y ait pas confrontation, nous voulons qu'il y ait une solution heureuse seulement. Mais si on peut éviter la confrontation, c'est encore mieux.
Burkina Faso est un pays souverain. Abuja n'a rien à voir à décider. Il ne peut pas décider pour nous. On ne peut pas s'en sortir sans une concertation de Burkinabé. On ne va pas discuter avec quelqu'un qui a une arme. L'essentiel est que la démocratie soit rétablie.
Et nous, on est fatigués de eux.
Ils n'ont qu'à faire pardon seulement. Ils n'ont qu'à s'entendre, tout ça. Et c'est mieux. S'ils s'entendent, c'est mieux pour les Burkinabés. Mon souhait, c'est qu'ils s'entendent. Ils ne veulent pas la guerre dans ce pays-là.
Voilà les propos recueillis par Zoumana Wonogo, notre correspondant à Ouagadougou. Faisons maintenant le point sur la situation dans la capitale burkinabé, où les forces militaires loyalistes sont arrivées hier soir et dans le camp de l'état-major des armées et dans le camp du général Diendéré. Les différentes déclarations appellent à une solution pacifique. Il faut éviter une confrontation entre frères d'armes, disent-ils. Nous avons sur place Issa Napon qui parle tout d'abord des forces loyalistes.
Eh bien, il faut dire qu'à ce moment, les forces en présence sont une partie autour de la capitale, une autre partie est à l'intérieur, soit au camp Sangoulé et Lamizana à l'ouest de la capitale, soit au niveau du camp Guillaume, où précisément des manifestants étaient portés ce matin, qui voulaient encourager donc le contingent arrivé de Bobo Dioulasso à aller à l'assaut de Kossiam. Mais un vœu qui tarde visiblement à se manifester, à se réaliser donc pour ces populations-là.
Vous venez de nous parler donc de l'armée loyaliste. Que fait le régiment de sécurité présidentielle ?
Les éléments du régiment de sécurité présidentielle sont confinés avec leur chef, le général Gilbert Diédé, au niveau du palais présidentiel de Kossiam, avec armes et bagages.
Quelle est donc l'ambiance dans la rue ?
Il n'y a pas grand monde, comme une ville fantôme. Quelques commerces ont ouvert rapidement pour permettre aux populations de se ravitailler. La grève qui avait été décrétée par les centrales syndicales est véritablement suivie et personne ne va au travail. La télévision diffuse des documentaires et de la musique, idem pour la radio. Et je crois que les populations qui ont reçu donc un mot d'ordre de rentrer à la maison pour être à l'abri en cas de confrontation, à part donc ces militants qui se sont déplacés en fin de matinée pour leur demander donc de monter à l'assaut de Kossiam. Mais sinon, dans la ville, c'est calme.
Merci Issa Napon, qui est un de nos correspondants à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso.
C'est évident, dans les rues de Ouaga, nombreux sont ceux qui rejettent le coup de force de Gilbert Diendéré. Idriss Fall a recueilli la réaction d'Eric Zabsonré, un habitant très remonté contre le général.
Nous vivons une situation déplorable avec le général Diendéré, que nous appelons aujourd'hui général Karanga. Karanga veut dire quelqu'un qui est nuisible. Aujourd'hui, le peuple tout entier est mobilisé pour chasser Diendéré. Quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, les différents crimes que le général Diendéré a commis depuis Sankara, avec Blaise, les différents crimes au Burkina Faso, fait qu'aujourd'hui, le peuple en a marre de cet homme-là. Aujourd'hui, tout le monde, les gens sont tirés à la maison, attendant que l'armée loyaliste intervienne. Vous savez déjà, on parle des dojos, il y a des populations civiles qui sont très armées, très puissantes, et ces gens viennent à Ouagadougou disant pour aller déloger le général Diendéré.
Donc vous avez le sentiment que votre révolution du 31 octobre 2014 n'est pas terminée ?
Effectivement, notre révolution n'était pas terminée parce que comme le RSP a intervenu et que Blaise est parti, donc on est resté à mi-chemin. Mais cette fois-ci, je pense que le peuple ira jusqu'au bout. Jusqu'au bout parce qu'il faut que l'on retienne. Il n'y aura plus de RSP, le RSP sera dissous, démantelé complètement. Il faut également retenir que le CDP et tous ses alliés de la blanche majorité, nous allons les dissoudre. Il n'est même plus question que ces gens-là qui ont commis des crimes économiques, des crimes de sang, continuent à vouloir gérer les hommes au Burkina Faso.
Pourtant, la médiation de la CEDEAO, notamment le président sénégalais et le président béninois, dans le préaccord, sont prêts à leur accorder l'amnistie et que les candidats du CDP puissent participer aux élections.
Mais nous avions suivi cela, mais nous savions que la CEDEAO, c'est une machination de la France. Hein, de M. Boni Yayi, le président sénégalais. Ils n'ont pas contacté le peuple, ils n'ont pas écouté le peuple. Ils ne se sont même pas adressés au président du CNT. Ils ne se sont pas adressés au premier ministre Isaac Zida, ni au président de transition Michel Kassando. Cela voulait dire quoi? Ça veut dire que la CEDEAO est venue simplement pour avaliser ce que Diendéré a voulu. Donc la CEDEAO n'a même pas condamné le coup d'État. Cela voudrait dire que la CEDEAO est de mèche avec le CDP, est de mèche également avec le général Karanga, le général Diendéré. Le peuple ne peut pas accepter une amnistie dans ces circonstances-là. Il y a eu beaucoup de morts et ils ont continué à tirer sur les populations. Des enfants sont morts. Nous ne pouvons pas accepter cela. C'est inadmissible.
Quel rapport y a-t-il entre l'armée loyaliste et les putschistes? Écoutons le colonel à la retraite, Lona Charles Ouattara.
Selon mon analyse, je pense que le chef d'état-major général de l'armée, le général Zagré et le général Dieng-Ré Gilbert, les deux promotionnaires d'école, ces deux jeunes que moi-même j'ai commandé en 79 quand ils venaient juste d'avoir le bac. Donc il doit y avoir une certaine forme d'amitié entre ces deux officiers généraux-là. Et par ailleurs, je pense que l'état-major général n'était pas très opérationnel, en ce sens que Zagré a été probablement, sa promotion a été probablement suggérée par le général Dieng-Ré Gilbert lui-même.
Et beaucoup disent que ces chefs de corps sont d'une autre génération, hein, que c'est les officiers très jeunes qui ont mis la pression sur des gens comme Zagré, le chef d'état-major.
Mais c'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. D'ailleurs, tant mieux, parce que tous ces généraux-là, c'est, pour ma part, c'est les généraux qui ont été faits par Blaise Compaoré, c'est pas très brillant, hein.
On a toujours dit que le RSP, c'est la branche de l'armée la mieux équipée, la mieux entraînée, en sorte l'armée d'élite du Burkina, ce que vous ne partagez pas.
Alors moi, je ne partage pas cela. Peut-être qu'elle est la mieux équipée à la faveur des événements des émeutes de 2011. Blaise a fait désarmer le reste de l'armée et entreposer l'ensemble de l'armement au RSP, mais ça s'arrête là.
Le colonel à la retraite, Lona Charles Ouattara.
Que se passe-t-il à Ouagadougou entre le régiment de sécurité présidentielle, l'armée régulière décidée à mettre fin au coup de force du général Diendéré? Quelle voie de sortie possible? Dans votre émission interactive aujourd'hui à 21h temps universel sur VOA Afrique, Eric Manirakiza sera en votre compagnie. Soyez nombreux à l'écoute. Vous pouvez aussi réagir sur notre page Facebook voaafrique.com. Rendez-vous à 21h.
Dans le reste de l'actualité, au moins 17 combattants du groupe islamiste nigérian Boko Haram ont été tués lundi et mardi au cours d'accrochages avec l'armée camerounaise dans Amchidé, ville frontalière du Nigeria dans l'extrême nord du Cameroun, selon des sources concordantes citées par l'AFP. Toujours selon l'AFP, attentat suicide dans l'extrême nord du Cameroun. Deux femmes kamikazes se sont fait exploser dans le village de Gouzoudou, dans l'arrondissement de Kolofata. Elles visaient manifestement un marché, mais elles n'ont pas pu atteindre leur cible. Crise électorale au Burundi, l'influente conférence des évêques catholiques du pays a appelé à la reprise d'un vrai dialogue, n'excluant aucun acteur afin d'éviter un retour de la guerre civile. Pas de libération anticipée pour Thomas Lubanga. Les juges de la Cour pénale internationale ont refusé de réduire la peine de l'ancien chef de milice congolais, condamné à 14 ans de prison pour crime de guerre en Ituri, dans l'est de la République démocratique du Congo.
Les ministres de l'Intérieur de l'Union européenne se sont réunis à Bruxelles pour discuter d'un plan de quotas controversé. Ce plan prévoit de répartir 120 000 migrants entre les 28 nations du bloc, mais plusieurs pays affichent encore leur opposition. Les ministres espèrent parvenir à un consensus avant le sommet des dirigeants de l'UE demain mercredi. Le président Abdrabou Mansour Hadi, qui vivait en exil, est de retour au Yémen après 6 mois en Arabie Saoudite. M. Hadi est arrivé ce mardi à Aden, dans le sud du pays, ont annoncé les autorités aéroportuaires. Son retour intervient quelques jours après celui des membres de son cabinet qui ont promis de travailler au rétablissement de la paix et de la stabilité au Yémen. Le président chinois Xi Jinping est arrivé ce mardi à Seattle, dans le nord-ouest des États-Unis, où il prononcera en soirée le principal discours de sa visite. Devant les responsables politiques et des chefs d'entreprise, M. Xi sera reçu par son homologue Barack Obama en fin de semaine à la Maison-Blanche. Et après un voyage placé sous le signe de la réconciliation à Cuba, le pape François devait atterrir ce mardi aux États-Unis. Le pape doit visiter Washington, New York et Philadelphie. défis, nous en reparlerons en seconde partie d'émission.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Chez Romain Dorcil et Morgane Guériac, en votre compagnie, place au dossier du jour. Le pape François arrive cet après-midi à Washington, venant de Cuba, pour une tournée qui inclut aussi d'importantes escales à Philadelphie et à New York. Qu'attend la communauté catholique, l'Amérique, de façon générale, de cette visite du souverain pontife? Et que dire de ses positions critiquées par certains conservateurs sur le changement climatique, le capitalisme, l'avortement et les homosexuels? Idrissa Seydoudia a contacté à ce sujet le père Gérald Murray, docteur en droit canon et curé de la paroisse Sainte-Famille à New York.
Je pense que c'est une grande joie, j'en suis sûr, au sujet des catholiques. Nous sommes très fiers d'avoir le Saint-Père avec nous. Mais comme vous savez, l'Amérique en général, c'est un pays religieux. Alors je pense qu'il y a un grand intérêt de part de tous les Américains pour la venue du pape et d'écouter ce qu'il va nous dire. Et de voir la vitalité de la vie chrétienne où les catholiques vont se rassembler, écouter et prier avec le pape. Et je pense aussi que son message au Congrès des États-Unis et aussi aux délégués à l'ONU à New York seront des grands moments pour voir ce que le pape considère les priorités importantes pour notre monde.
Comme vous le savez, mon père, il y a déjà des critiques. Je ne dirais pas que tout le monde critique le pape, mais il y a des conservateurs qui n'aiment pas sa position sur l'environnement. Il met l'accent sur l'environnement. Et les positions plutôt en flèche qu'il a adoptées récemment sur l'avortement, les homosexuels et le capitalisme. Alors, comment est-ce qu'il compte faire face à ce genre de critiques?
Bien, c'est intéressant parce que le pape vraiment a entré dans le débat sur le climat et le chauffage et tout ça, et aussi dans le domaine d'économie et les critiques, ce qu'il considère capitalisme sauvage. Et je pense que ces gens en Amérique ne sont pas d'accord avec son point de vue. Ils ont l'opportunité d'écouter le pape, mais aussi d'exprimer les raisons pour lesquelles ils ne veulent pas suivre ce chemin du pape. Mais à la fois, en ce qui concerne la doctrine catholique, je pense qu'il va trouver en Amérique des fidèles qui soutiennent la doctrine, spécialement au sujet de l'avortement, sur la nature du mariage donné par Dieu. Sur la dignité de l'homme et aussi la liberté religieuse qui est un héritage que Dieu nous a donné. Alors il y a des moments, je sais qu'il y a des critiques dans la presse, mais le pape, il veut vraiment une discussion. Il nous a dit plusieurs fois qu'il n'aime pas ce que nous appelons en anglais les yes men, les gens qui disent toujours oui.
Les béni oui.
Oui, exactement. Il veut les gens qui vraiment se sentent libres d'exprimer leur point de vue et de le soutenir avec des raisonnements développés.
Voilà, c'était le père Gérald Murray, docteur en droit canon et curé de la paroisse Sainte-Famille à New York.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, plein feu sur la visite historique du pape François aux États-Unis. Un voyage rempli de symboles et de défis dans un pays où la population catholique est en baisse et marquée par les excès du capitalisme et les injustices sociales. Quel doit être, selon vous, le message du pape aux Américains? Est-ce l'occasion également d'avoir une pensée spéciale pour l'Afrique avant son voyage en novembre? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h10.
Le président chinois Xi Jinping a entamé une visite d'État de 3 jours à Seattle, dans le nord-ouest des États-Unis. Ces discussions porteront sur les domaines de coopération comme la stabilité de l'économie mondiale ou la lutte contre le réchauffement climatique. On s'attend aussi à ce que des sujets litigieux comme la lutte contre la cybercriminalité soient également abordés. Précision, Michel Joseph.
Ces derniers temps, la Chine fait l'objet de sévères critiques ici aux États-Unis, notamment en rapport avec les cyberattaques contre des cibles gouvernementales et privées américaines. Les disputes territoriales entre Pékin et ses voisins sont aussi une autre épine dans les relations avec Washington. Qu'à cela ne tienne, tout sera mis en œuvre pour que la visite du président chinois se déroule sans heurts, explique Jun Sun, chercheuse principale au Stimson Center de Washington. Si la première visite d'État de Xi Jinping en tant que président chinois aux États-Unis et ils devront créer une sorte de positivité autour de ce voyage. Pour le chef de l'État chinois, il s'agira de démontrer à ses compatriotes qu'il est en position de négocier avec les Américains. L'un des domaines de coopération entre la Chine et les États-Unis est la lutte contre le réchauffement climatique. Américains et Chinois ont fait état de grands progrès dans ce domaine, a expliqué Jun Sun du Stimson Center de Washington. Autre sujet qui sera discuté à Washington, la Corée du Nord, a souligné la chercheuse. Dans son entretien avec le Wall Street Journal, en début de journée, Xi Jinping a réitéré son engagement en faveur de la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Selon Jun Sun, les deux pays sont impatients d'œuvrer à la stabilisation de l'économie mondiale et le développement international émerge comme un nouveau sujet de discussion entre eux. Du fait de leurs différences de perspectives et de critères, la coopération en matière de développement international a fait défaut dans ses relations bilatérales et nous sommes impatients de voir ce qu'ils se proposent de faire. Pour leur part, les États-Unis vont poser des questions à la Chine sur les disputes maritimes et les cyberattaques, deux sujets sur lesquels les Chinois sont réticents à clarifier leur position. Spécialement en matière de cybersécurité, parce que les Chinois n'ont pas atteint le niveau technologique des États-Unis et la Chine estime que toute négociation basée sur un déséquilibre en matière de connaissances n'est pas dans son intérêt national.
Au Sénégal, le procès de Hissène Habré se poursuit malgré le silence observé par l'ancien président tchadien devant le tribunal spécial qui le juge. Actuellement, quelques responsables des ONG tchadiennes livrent leurs témoignages. D'après les estimations d'une commission d'enquête tchadienne, 40 000 personnes sont mortes durant le règne de Hissène Habré au Tchad. Pour la cour de Dakar, la tâche n'est pas facile. D'après l'éditorialiste du site sénégalais Sénéplus, Momar Seydi Ndiaye.
Les juges pensent effectivement que puisque Habré n'assume pas sa défense, c'est qu'en réalité il assume sa culpabilité. Ce n'est pas totalement juste, évidemment, parce qu'il aurait fallu que lui-même ait pu dire ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait, mais le fait qu'il adopte une position de silence n'arrange pas les choses. Mais évidemment, les juges n'ont pas le choix. Ils sont obligés effectivement de poursuivre le procès et faire en sorte que, comme si effectivement Habré avait entendu et accepter les accusations qui sont portées contre lui, des accusations tout de même très graves, hein, il faut bien le dire. Hein.
Quels sont les grands témoignages entendus jusque-là?
Bon, les grands témoignages qu'on a entendus jusque-là, c'est les témoignages des responsables d'ONG tchadiennes, de personnalités qui sont dans, qui relèvent un peu de la société civile, dont Olivier Berko, qui est un écrivain. Il y a d'autres témoins qui relèvent souvent de la société civile. Pour l'instant, on n'a pas encore entendu d'opposants politiques. C'est plutôt la société civile qu'on entend en courant. Hein. Pour l'instant, les opposants politiques au régime de Habré n'ont pas encore pris la parole.
Est-ce que la tâche n'est pas compliquée pour les juges face à Hissène Habré qui refuse de s'exprimer?
La tâche est très difficile parce qu'on ne sait pas si Habré accepte ce qu'on lui repose ou non. Et il n'a pas d'avocat. En fait, ses avocats ne plaident pas pour lui. Et il a refusé les avocats qui ont été commis pour lui par l'État. Donc, il se contente de se réfugier dans un silence profond. Évidemment, pour les juges, c'est très embêtant. C'est comme s'il s'adressait à un mur. Parce que Habré, même s'il a fait baisser un peu la hargne, et il s'est quand même réfugié dans un silence profond. Il s'est mis dans ce silence en refusant de parler. Il s'est complètement enturbanné et refuse même de regarder les témoins à charge contre lui. Pour les juges, évidemment, c'est extrêmement gênant parce que quand vous avez un prévenu qui est à la barre et qui refuse de s'exprimer, c'est évidemment très difficile. Vous comprenez qu'ils sont obligés de considérer le silence de Habré comme une sorte d'acceptation des accusations qui sont portées contre lui.
Voilà, c'était donc l'éditorialiste du site sénégalais Séné Plus, Mohamed Seydi Ndiaye, au micro de Roger Kalala.
La Voix de l'Amérique au Tchad, 24 heures sur 24, à N'Djamena, en direct sur 93.1 FM et sur FM Liberté, aussi à N'Djamena.
Voilà pour nos dossiers du jour. Maintenant, un coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs avec Claire Morin-Gibourg.
Lutte contre la corruption au Gabon, un ancien ministre de la fonction publique, Serge Maurice Mabiala, membre du parti au pouvoir, a été écroué hier à Libreville pour de présumées malversations portant sur environ 3 millions d'euros, a appris l'AFP de sources judiciaires. Monsieur Mabiala nie toute malversation. Le gouvernement gabonais s'est engagé à plusieurs reprises à lutter contre les détournements de fonds publics, mais à ce jour, peu de dossiers sont arrivés devant les tribunaux du pays. Lutte contre la corruption au Nigeria également. Le président du Sénat, Bukola Saraki, accusé de fausses déclarations de patrimoine, a plaidé non coupable aujourd'hui devant le tribunal du code de conduite du pays, la troisième autorité la plus haute du pays. Le procès a été ajourné au 21 octobre à la demande de l'avocat du prévenu, qui réclamait plus de temps pour préparer sa défense. Ce cas représente un test décisif pour le président Muhammadu Buhari, vainqueur des dernières élections. Investi le 29 mai, le chef de l'État nigérian s'est engagé à lutter farouchement contre, selon ses propres termes, le démon de la corruption et à traduire en justice les responsables. Un nouvel hôtel 5 étoiles pour Abidjan. Après la Société des Lagunes, c'est le groupe hôtelier Mövenpick qui parie sur la capitale ivoirienne pour un investissement de 55 millions d'euros, selon nos confrères de Jeune Afrique. Réalisé en partenariat avec Bouygues Construction et la Saprime, l'hôtel devrait ouvrir en 2018 ou début 2019.
Voilà pour la Minute Éco. Merci Claire.
Dernière page, l'actualité sportive avec Bagassi Koura en studio. Salut Bagassi.
Oui, bonsoir Chérubin, bonsoir à tous.
Parlons de ce match amical entre la Côte d'Ivoire et le Maroc en football.
Oui, les éléphants seront opposés aux Lions de l'Atlas en match amical. Ce sera le 9 octobre à Agadir. C'est ce qu'a annoncé la FIFA, la Fédération ivoirienne de football. Les deux sélections sont en préparation, Chérubin, pour le deuxième tour des qualifications Zone Afrique du Mondial 2018.
Lutte contre le dopage dans le foot en Algérie.
Oui, Youssef Belaïli, joueur de l'USM Alger, a été contrôlé positif et il a été suspendu pour 2 ans de toute compétition nationale et internationale pour dopage. C'est ce qu'a annoncé ce lundi la Ligue algérienne de football professionnel. Belaïli, il faut le dire, ne disputera donc pas les matchs aller des demi-finales de la Ligue des champions d'Afrique face au club soudanais d'Al Hilal. Ce sera le 27 septembre à Khartoum et le 3 octobre à Alger.
Donc il ne veut pas disputer les matchs aller et retour. Yeah. Et FIFA, premier comité exécutif de l'après-Valka, le secrétaire général.
Oui, le comité exécutif qui s'ouvre jeudi à midi et doit se clore vendredi à la mi-journée sera suivi d'une conférence de presse à laquelle le président démissionnaire Sepp Blatter, qui ne s'est pas exprimé depuis la mise à l'écart de son bras droit, a confirmé sa présence. C'est ce qu'a fait savoir la FIFA mardi après-midi. Cette réunion de l'exécutif de la Fédération internationale sera supervisée par l'Allemand Markus Kappner, directeur financier et secrétaire général adjoint qui a remplacé au pied levé le secrétaire général Jérôme Valcke, brutalement démis de ses fonctions la semaine dernière. La FIFA a réagi très rapidement à la publication jeudi dernier par la presse anglaise d'accusations selon lesquelles M. Valcke serait impliqué dans un système de revente massive de billets au marché noir lors du Mondial 2014.
Et il faut dire aussi, Bagassi, que le Qatar se prépare pour la Coupe du Monde 2022. Le Qatar a annoncé son intention d'introduire l'année prochaine le premier système de contrat électronique pour les centaines de milliers de migrants qui travaillent dans l'Émirat. Merci.
Merci.
C'est la fin de cette édition. On remercie Lionel Gaïmard qui a dirigé la mise en onde, assisté de Micha Dubinsky à la console. Présentation Morgane Guiriec et Gabi Chérubin d'Orsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voaafrique.com.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.